de CKRL, Julie Gagné, qui est avec vous, accompagnée... 31e, j'ai donné 8 ans de plus à CKRL. Faut croire que l'espoir me fait vivre. Je me projette à l'avant dans le temps. Donc, on est bien en 2012 et pas 8 ans plus tard. Donc, comme je le disais, Julie Gagné avec vous qui anime cette émission d'1h30. On est là jusqu'à 15h. Une émission table ronde sur les métiers d'art à Québec. L'aérospatiale, habituellement, on parle principalement d'art visuel. Je me suis dit, on va donner une tribune à des disciplines qui en ont peut-être pas autant d'habitude. Et autour de moi, plusieurs personnes très, très compétentes pour en parler. Notamment, on rencontre Danny Quine, historien de l'art et des métiers d'art, enseignant au Cégep Limoilou. Bonjour.
Salut.
On rencontre également Amélie Proulx, qui est avec Véronique Martel, vous êtes deux céramistes, cofondatrices des ateliers du 3-5e. Bonjour, mesdames.
Bonjour.
Jean-Robert Drouillard, sculpteur, enseignant à la Maison des métiers d'art de Québec, membre cofondateur du Bloc 5. Bonjour.
Bonjour.
Catherine Chidi, joaillière, enseignante, coordonnatrice du programme technique de métiers d'art au Cégep Limoilou, présidente du conseil d'administration de Materia.
Eh oui, tous ces chapeaux, bonjour.
Et Mathieu Fecteau, diplômé en sculpture de la Maison des métiers d'art, qui est présentement étudiant à l'École des arts visuels.
Absolument.
Donc, une bonne heure et demie avec nous pour discuter de tout ça. Puis peut-être on dit souvent l'expression « métier d'art ». Qu'est-ce que ça comprend? Est-ce qu'on confond métier d'art, artisanat? Donc, je poserais peut-être la question d'Annie Quine. Est-ce que c'est possible de nous définir la discipline ou les disciplines marquées par les métiers d'art? Ouais,
tu commencerais à être pas mal. Hein?
Ben oui!
juste avant, dire aux auditeurs que je dois m'excuser auprès d'eux puisque j'ai un gros rhume de gars, donc un petit rhume de fille.
Avec une belle voix rauque.
Quand même, je suis radiophonique, c'est KRLMF 89,1. Super. Alors, je voulais dire également que autour de la table, il y a quand même 4 étudiants que j'ai eus. C'est sympathique. Et toi, Julie, tu as été ma stagiaire de l'Université de Laval. Super. Alors, je suis vraiment bien entouré. Ou bien toi, t'es bien entouré, qu'importe. Alors, c'était quoi la question?
La question, c'est peut-être de nous parler un peu, c'est quoi les métiers d'art, disons, par rapport aux arts visuels?
Oui, en fait, il faudrait, comme je suis historien, donc on va remonter un peu en arrière. Il faut savoir que la distinction entre métiers d'art et arts visuels est somme toute assez récente dans l'histoire de l'art, puisque cette distinction-là s'est faite surtout à partir de la Renaissance, en fait. Parce qu'auparavant, tout le monde était considéré comme un artisan, que ce soit un ébéniste, un sculpteur, un peintre. Et à partir de la Renaissance, en vertu de certaines choses, ça serait trop long de rentrer là-dedans, on a commencé à faire cette distinction-là. Et c'est également au cours de cette période qu'on a commencé aussi à hiérarchiser les arts, en mettant au sommet l'architecture, la peinture. Et la sculpture était même un peu plus... situé un peu plus bas dans l'échelle, parce qu'on disait qu'un sculpteur, lorsqu'il sort de son atelier, il est plein de poussière. Jean-Robert, d'ailleurs, pourrait... tandis que le peintre, lui,
moins... Il travaille avec l'esprit plus qu'avec le corps.
Et tout ça aussi sur la base de l'exploitation des mathématiques et tout. Et à partir de la Renaissance, de plus en plus, le clivage s'est fait. Et de telle sorte qu'aujourd'hui, c'est un peu curieux parce qu'on est encore dans cette idée que les métiers d'art, il y a une distinction à faire avec les arts visuels. Souvent, les gens associent les métiers d'art à des objets utilitaires, par exemple une théière, ainsi de suite, là, un meuble. Et finalement, dans l'esprit du temps, surtout avec la postmodernité, on est dans une période de métissage. Et finalement, on pourrait retrouver justement un meuble qui est un meuble sculpture, et puis il n'y a pas question de s'asseoir dessus, par exemple. On pourrait également trouver une œuvre qualifiée d'art visuel qui pourrait être fort bien utile. Donc, cette distinction-là prévaut beaucoup moins aujourd'hui qu'elle ne... Voilà.
Peut-être aussi une autre question, parce que souvent on parle de métier d'art, les gens pensent artisanat, s'imagine la personne là, qui dans son petit atelier, qui gosse le bois, qui fait quelque chose de plutôt populaire ou encore naïf. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore ces préjugés-là vis-à-vis les métiers d'art? Catherine?
Oui, En fait, je ne sais pas à quel point c'est important de s'attarder aux préjugés comme tels, parce que pour moi, les métiers d'art, dans le fond, c'est un savoir-faire, d'abord. Donc, c'est d'être capable de transformer une matière. Et de plus en plus, Denis a parlé, les métiers d'art, même entre eux autres, sont perméables de plus en plus. Donc, on va même travailler d'autres matières, mais avec des techniques issues d'un métier en particulier. Donc, selon les métiers d'art aussi, là, il y a différentes histoires qui sont en train de se construire présentement.
Donc, la principale peut-être différence, ce serait justement de partir plus de la technique, de partir des matériaux, plus que de partir, par exemple, d'un concept?
Ben moi, c'est le constat que j'ai... J'en suis venu à la conclusion de, tu sais, il y a 12 ans, il y a 13 ans, Danny m'enseignait l'histoire de l'art, puis dans ses cours, il disait qu'il n'y avait pas de distinction, que c'était de l'art. T'sais. Là... Ça fait quand même 12 ans que je suis sorti de l'école, puis je me suis venu à la conclusion qu'il y avait une différence. Puis la différence, si on met ça sur une ligne, si on dessine une ligne sur une feuille, les métiers d'art partent, comme disait Catherine, du savoir-faire, de la matière. L'art visuel, à mon sens, part du sens. L'artiste en art visuel veut d'abord émettre du sens. Il veut, puis ensuite, il va partir à la recherche de comment. Bon, ça se fait sous forme d'installation, d'art audio. Il cherche les techniques après pour y aller vers le résultat. Tandis que quelqu'un comme moi, par exemple, je vais fabriquer de la sculpture parce que je sais comment fabriquer un personnage en bois, puis parce que je sais gosser du bois à la base dans ma tête. Je suis pas encore devenu l'artiste en art visuel qui a un concept puis qui va partir à la recherche de la manière de l'exprimer de la meilleure façon.
Donc, c'est vraiment, à la base, ce sont les matériaux. Peut-être, Véronique, Amélie, vous travaillez en céramique. Est-ce que c'est ça qui vous a amené, à la base, vers la céramique?
Ben oui, en fait, la céramique, c'est aussi un savoir-faire qui est très, très important dans cette matière-là. Puis, je pense que c'est si on n'a pas ce savoir-faire-là en céramique, on n'arrive pas à faire quelque chose. On n'est pas capable de donner du sens à la matière, même si on le voulait. Donc, le savoir-faire est vraiment la base du travail de la céramique.
Merci. J'accueille Jean-Pierre Gay. Jean-Pierre Gay qui nous a fait une sélection audio pour l'émission aujourd'hui. Jean-Pierre Gay aussi qui a animé longtemps l'aérospatiale, qui anime maintenant la Croche-Oreille, qui est dédiée à l'art audio. Donc, on te faisait une pleine confiance, Jean-Pierre.
Bien, c'est très gentil d'avoir pensé à moi. Jean-Robert parlait du sens. Bien, l'art audio, c'est un sens. J'ai choisi de vous présenter trois pièces qui témoignent de différents courants dans le domaine de l'art audio. La première, c'est de Jocelyn Robert. Et curieusement, Jocelyn Robert ne joue pas dans cette pièce-là. Il utilise un disque-clavier, qui est un piano dans lequel il y a un ordinateur, grosso modo. Jocelyn a travaillé sur le mouvement, okay? La mobilité, l'immobilité. Et il a imaginé un banc de poissons qui traverserait à travers un étalement de notes de Beethoven. Et il a donc créé le logiciel qui interprète ça. Donc, le disque-clavier joue tout seul et interprète le banc de poissons qui traverse à travers un paquet de notes de Beethoven. Un petit poisson qui passe, donc il touche une note, ça joue. C'est ça l'idée de la première pièce qu'il va jouer. C'est la foule de Jocelyn Robert. Thank you.
Direct du Radioton, vous écoutez l'émission spéciale de l'aérospatiale Table ronde sur les métiers d'art. Non, Jean-Pierre Guy nous a dit que ce n'est pas une sélection musicale, c'est une sélection audio. On vient d'entendre Jocelyn Robert. C'est tiré de quel album?
En fait, Jocelyn vient de sortir deux albums, Mobile et Immobile. C'est tiré de Mobile.
Voilà, Jean-Pierre Guy, merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure. Et en cours de pause audio, Danny Quinn me dit « Est-ce que je peux m'objecter à quelque chose? » Il voulait absolument réagir. Donc, je pense que c'est des propos de Jean-Robert Drouillard qui t'ont fait réagir ou de l'ensemble.
Non, je mets tout le monde dans le même panier. Je mets Catherine, Jean-Robert et tout le monde. Non, c'est que, bon, ils ont parlé de, bon, tenter de trouver une définition des métiers d'art. Et ils ont parlé notamment de savoir-faire. Et ils ont mentionné que, à la différence des métiers d'art, les arts visuels procédaient par le concept. Et après ça, bien, on en arrivait a posteriori à l'objet lui-même. Et pour ma part, bon, premièrement, c'est que le savoir-faire peut être aussi bien présent chez un peintre, évidemment quelqu'un qui fait une installation. Pour moi, le propos n'est pas là. Également, bien concernant la question du concept a priori, je suis pas certain parce que je connais plusieurs personnes qui sont en métier d'art. Et même, je suis à peu près convaincu, Jean-Robert, que parfois, tu imagines ton œuvre avec un propos avant même de le mettre en matière. Tu vas pas commencer à travailler la matière, puis après ça, avoir ton idée. Et moi, je serais plutôt pour une autre hypothèse. En fait, c'est une hypothèse. C'est que, d'après moi, la seule différence que j'ai pu trouver, c'est que les métiers d'art ne délaissent jamais la notion d'objet. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas retrouver, par exemple, une œuvre totalement conceptuelle et que ça puisse apparaître dans un ouvrage sur les métiers d'art. L'objet est un élément central. Et je dirais même pas la matière, parce que tout à l'heure, la question de la matière est venue en ligne de compte. Dans le fond, le musicien travaille avec une matière, l'artiste en art conceptuel travaille aussi, peut travailler avec une matière. À mon avis, c'est pas la matière, mais c'est l'objet.
Mathieu Fecteau, t'es allé étudier en art visuel après ton DEC en métier d'art. Qu'est-ce que t'en penses de ce que Danny dit?
Ben, moi, j'ai étudié en sculpture à la Maison de métier d'art. Puis c'est sûr que là, on a une certaine liberté aussi parce qu'on peut se mettre à élaborer dans plein de directions différentes. Moi, j'ai travaillé souvent avec des tuyaux, avec des éléments de plomberie, d'électricité. Donc, le savoir-faire, je m'informais auprès d'un plombier pour le savoir. Fait que c'est sûr que c'est un peu différent. Puis d'aller en art visuel après, ben là, c'est de peut-être justement de voir des horizons nouveaux, de voir ça un peu plus différent. Mais par rapport au savoir-faire, moi, je pense que le savoir-faire, c'est certain qu'avant, il était très, très présent dans la société, dans la communauté. Les gens travaillaient tous les jours, ils réparaient une galerie. Tu sais, il y avait un gros, gros savoir-faire qui était mis en valeur à tous les jours. Puis je pense que les gens étaient entourés de choses faites main. Puis plus ça se perd, puis plus ça a besoin de revenir, je pense. Puis c'est peut-être là que le métier d'art est mis en valeur, puis les gens ont besoin d'aller s'accrocher à ça, peut-être. Là.
OK, donc vraiment de remettre ça, finalement, à jour, parce que c'est quelque chose qui se perd, peut-être, qui s'est perdu un peu.
Le fait même, c'est sûr que l'artisan, il veut qu'on sente que c'est lui qui le fait. Je pense que ça, c'est une grosse différence comparativement à un autre.
Catherine, as-tu réagi?
Oui, je réagis parce que on dit, oui, bon, il y a l'objet, ça, je suis tout à fait d'accord. Avec Danny. Par contre, de plus en plus, les savoir-faire, justement, quand on arrive dans des domaines plus en recherche, dans les métiers d'art, oui, il y a un intérêt pour le fait même, mais de plus en plus, il devient même évacué pour mettre en œuvre, justement, on parlait de recherche de sens. Donc, oui, on parle d'une pratique. Je vais parler pour ma paroisse, par exemple, en bijoux contemporains, où maintenant, le bijou contemporain va puiser à la sculpture, à la performance, va vraiment dans toutes sortes de répertoires proches des arts visuels. Et on est encore dans le domaine des métiers d'art. Mais ça, cette appellation-là, on la retrouve aussi beaucoup, en fait, autour de la table. Il y en a beaucoup qui ont passé par l'université ici. En fait, tous. Donc, on a développé aussi, parce qu'on est au Québec, moi je suis allée, comme Mathieu, étudier en art visuel après les métiers d'art, puis jusqu'à la maîtrise. Et maintenant, je fais un retour dans la joaillerie et je trouve un domaine là, d'exploration extraordinaire grâce à des approches universitaires que je retrouve dans le Canada anglais, entre autres, et beaucoup aux États-Unis, puis dans certains pays européens. Donc ça, c'est une approche et une ouverture incroyable. Là. Oui,
en fait, peut-être que je vais juste continuer ton propos. Moi, j'ai une maîtrise en métier d'art d'une université en Nouvelle-Écosse. Et puis, dans cette université-là, les métiers d'art sont célébrés autant que les arts visuels. Puis ça, moi, ça a été super enrichissant dans ma pratique, justement, d'avoir accès à une éducation où il n'y a pas cette frontière effroyable entre les arts visuels et les métiers d'art. On a un processus créatif qui est très similaire. Sauf qu'on a peut-être cette sensibilité à la matière qui est parfois pas toujours présente en art visuel, puis ça, c'est pas une généralité que je fais, là, mais c'est quand même vraiment intéressant, justement, d'avoir cette expérience-là, puis de revenir ici au Québec avec cette expérience-là, pour peut-être apporter un petit changement aussi, éventuellement.
Vous avez parlé d'autres endroits, en fait, que le Québec. Est-ce que c'est parce que, justement, dans une tendance peut-être un peu plus internationale, il y a cette idée d'abolir les frontières qui sont un peu plus présentes? On parlait de Nouvelle-Écosse. Catherine, tu parlais d'États-Unis, je crois.
Les États-Unis. L'été passé, j'étais en Hollande, où c'est très, très développé. En fait, les métiers d'art en Hollande sont au même niveau que le design et sont dans des chaires de recherche avec les architectes, les designers, etc. Donc, c'est mélangé. Très, 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 très perméable.
OK. Puis au Québec, est-ce que ça s'incarne vraiment de manière différente? Est-ce qu'il y a un clivage, Dani?
Moi, je pense que dans la mentalité des gens, il y a encore une différence assez marquée. Et je me demande, je reviens encore à cette idée que j'ai vraiment l'impression que c'est presque arbitraire, finalement, cette distinction-là, et que finalement, c'est peut-être davantage utile pour, je sais pas, le ministère de la Culture, pour les bourses, pour bien distinguer les choses, savoir qu'est-ce qu'on donne à qui. Si c'était pas le cas, bon, comment iraient les sommes? Je pense que c'est parce que c'est pratique, c'est utile, mais dans le fond, en fait, je fais pas exprès, je suis polémiste, là, mais je veux vous relancer. Mais j'ai l'impression que c'est utile uniquement pour ça.
Ben, moi, je suis sorti de l'école en 2000, de l'école de sculpture, puis j'avais véritablement l'impression qu'il y avait une distinction. Puis, fabriquer de la figuration en bois, c'était très difficile pour moi de me faire justice dans les sphères d'activité d'exposition, que ce soit même au niveau des bibliothèques. Puis cette chose-là, lentement, j'ai senti qu'elle changeait. C'est sûr que mon travail s'est complètement métamorphosé, mais à l'atelier, nous, au bloc 5, juste en arrière ici, des personnes comme BGL ou Cooksasville, cette trace d'artistes en art visuel passe souvent. Puis, tu vois complètement que leur discours, puis ça s'est métamorphosé. Ils ont le regard, il y a une hybridation qui est en train de se faire ici aussi au Québec. Puis, la semaine passée, Ludovic Bonnet, qui est un de mes associés, faisait une blague à Jasmin Bilodeau de BGL. Parce que Jasmin fait souvent des blagues en disant qu'il y a de la job dans le métier d'art. Puis, il y a du travail, puis il y a de l'argent. T'sais. Vous autres, t'sais, ça fonctionne le métier d'art. Puis là, Ludo, il dit, ouais, mais toi, c'est quoi ton métier? C'est de faire de l'art. Fait que toi aussi, tu fais des métiers d'art. C'était ça sa blague.
C'est peut-être une petite question avant qu'on aille en pause. Là. C'est peut-être une question à développement un peu long pour ça, mais bon, vous faites la différence artiste en art visuel. Est-ce que c'est plus difficile d'avoir une carrière quand on est issu des métiers d'art? Est-ce qu'il faut se justifier des fois un peu plus pour être représenté, par exemple, pour une galerie ou aller dans des expositions?
Ben moi, ça fait pas bien longtemps que je suis revenue au Québec. Là, ça fait un an et demi, puis je dois avouer que d'entrer dans le réseau des centres d'artistes ici, je trouve ça difficile. Et puis j'avais pas eu cette expérience-là quand j'étais dans le Canada anglais. Donc je pense que j'ai encore des croûtes à manger pour pouvoir vraiment bien intégrer le réseau.
Catherine?
Ben, en fait, toute la reconnaissance de la recherche en métiers d'art au Québec est à développer, à faire connaître. On parlait, Dany parlait de subventionneurs. En fait, on se tourne vers le CALC quand on veut, ou le CAC quand on veut faire de la recherche dans ce domaine-là. Donc, c'est notre voie de sortie pour se faire connaître. Sinon, du côté produit, ben, à ce moment-là, ça, c'est un autre milieu. Donc, les produits en métiers d'art au Québec ont quand même une vitrine assez intéressante qui peut être développée encore davantage, mais je pense que on est reconnu, puis on a des bons produits au Québec.
Ben Catherine Chédy, merci beaucoup. Enfin, merci à tout le monde. On s'en va en pause et on se retrouve dans une dizaine de minutes. Sur les métiers d'art, toujours dans le cadre de l'aérospatiale, en direct du Radioton, du 31e Radioton et non du 39e, je l'ai vieilli. Vous savez, au cours des pauses, habituellement, il y a toujours de riches discussions, puis on discutait avec les gens de la table ronde du fait que, depuis le début, on parle surtout de la création en métiers d'art, hein, la création d'œuvres uniques, mais il y a tout un pan dont on n'a pas parlé encore, qui est celui des œuvres en série. Puis j'imagine, peut-être, Véronique, si tu peux m'en parler, le réseau pour la diffusion, pour la vente, tout ça, ça doit être quand même très, très, très différent de ce qu'on trouve dans le monde des arts visuels, par exemple.
Effectivement, pour les artisans qui ont décidé de prendre la tangente d'objets utilitaires ou décoratifs, des objets beaucoup plus accessibles pour le grand public qu'une sculpture, par exemple, jouissent d'un réseau de distribution qui est beaucoup plus aisé que les œuvres d'art, par exemple. Donc, ces artisans-là vont vendre à travers des grands salons événementiels qui sont entre autres organisés par le Conseil des métiers d'art du Québec. On n'a qu'à penser au Salon des métiers d'art de Montréal, plein art ici à Québec. Et il y a aussi plusieurs personnes du milieu qui organisent des événements importants où les artisans peuvent aller vendre et faire des grosses sommes d'argent à travers un seul événement. On peut nommer le Mille et un pots à Val-David où les artisans céramistes peuvent faire un chiffre d'affaires très important à travers un seul mois de vente.
Puis Jean-Robert Drouillard, en pause, tu disais que tu avais quitté un peu ce réseau-là. Qu'est-ce qui t'a amené à partir comme ça?
Ben, je ne sais pas comment que je l'ai verbalisé tout à l'heure, mais ce que je disais, c'est que les sphères d'activité métiers d'art sont complètement différentes des sphères d'activité en art visuel, ce qui participe dans nos têtes à définir les deux mondes. Puis, dans le milieu des métiers d'art, il y a une logique de la vente, du client, du marketing. Il y a toutes des notions comme ça qui sont exclues du schéma de pensée d'un artiste en art visuel. Donc, si tu veux gagner ta vie avec ton savoir-faire en fabriquant des objets, puis tu veux t'inscrire dans le réseau des métiers d'art, ben, tu es obligé d'y aller avec une logique boutique. Qu'est-ce que c'est? Tu sais, tu suis des conférences, puis la personne te dit, tu sais, quelles sont les tendances, tu sais, puis fait que là, tu es obligé de réfléchir à des couleurs qui seraient plus pertinentes, puis qui vendraient plus, puis fait que ça, c'est le genre de choses que j'ai refusé complètement d'aborder, que je pouvais pas accepter. Puis cette logique de vente aussi fait que tu l'objet, faut que tu le penses en fonction de le mettre à l'intérieur d'une maison parce qu'il y a quelqu'un qui va le... Fait que ces choses-là enlevaient du sens à mes futures sculptures.
Mais tu sais, Jean-Robert, que dans plusieurs galeries d'art de Québec, bien des peintres font exactement la même chose, c'est-à-dire que, qu'est-ce qui est tendance?
Mais tu fais exprès de me parler de ça.
Oui, c'est vrai.
Tu veux me craquer.
et en plus, on parlait du Salon des métiers d'art tantôt. Mais à Québec, là, il y a des kiosques où on vend de la peinture. Il y a des peintres qui sont là au métier d'art.
Comme quoi, il y a des peintres qui peuvent être plus des artisans de la peinture parce qu'ils se contentent un peu de toujours reproduire le même type de choses, même type de sujet en fonction du marketing, finalement.
Mais même si on produit des pièces en série, le sens n'est pas complètement évacué. Il faut savoir que oui, certes, le besoin du client joue dans notre création, mais la création est toujours là et c'est pas parce que c'est aussi en série que c'est dénué de sens. Faut pas oublier ça.
Ouais. Puis moi, j'ai de la misère un peu des fois avec l'aspect péjoratif. On dit on tente de plaire au public, etc. Ouais. Et c'est pas le cas, en fait. Si on les appelle des designers de produits, là, tout d'un coup, on a une vision tout à fait plus acceptable là, du créateur qui, effectivement, malgré les contraintes qui deviennent en fait des moteurs de création, poussent les créations. D'ailleurs, au Québec, là, on a vraiment des objets de métier d'art là, qui se distinguent sur le reste du Canada et aux États-Unis là, énormément. Là, on rayonne.
De quelle manière hein, ça se distingue comme ça?
Par l'originalité du design, principalement. On ose beaucoup, justement. On est ancré, oui, dans des techniques qui sont plutôt traditionnelles, mais on ose les détourner, ces techniques-là. On va puiser à toutes sortes de sources. On parlait tout à l'heure, là, justement, ceux qui vont dans les arts visuels, tout ça. On s'empêche pas là, d'aller s'inspirer puis de voir qu'est-ce qui se fait puis être au-delà, finalement, des tendances qu'on parlait tout à l'heure.
Je pensais à quelque chose tout à l'heure, c'est que il y a des artistes en art visuel, patentés comme tels, qui ont eu une formation en art visuel et qui sont sculpteurs, par exemple, et qui vont utiliser l'argile comme matière première. Et là, ils vont exposer dans des galeries d'art et on va dire « Ah, t'es un artiste! » Et là, l'objet qu'ils vont faire va se vendre, bon, qu'importe, mais une somme très élevée. Et là, en contrepartie, tu vas avoir quelqu'un qui a eu sa formation en métier d'art, qui est spécialisé du côté de la céramique, qui travaille en argile et qui fait pas des pots, là, qui va faire des sculptures en argile, qui va présenter ses œuvres dans des boutiques de métiers d'art. Et puis là, bon, là, ça va se vendre évidemment beaucoup moins cher parce que t'as pas l'idée, hein, tu sais, du génie de l'artiste derrière ça. À mon avis, c'est tout à fait arbitraire.
Est-ce que ça viendrait d'une perception du statut d'artisan versus le statut d'artiste encore, où l'artiste serait plus élevé que l'artisan?
Moi, je pense que oui. C'est ce que je disais au début. Hein.
Je comprends, mais dans ma tête, c'est difficile à exprimer. C'est que c'est injuste. Tantôt, je me suis mal exprimé par rapport à la logique commerciale qui sous-tend les métiers d'art. Mais cette logique-là fait aussi que les boutiques que tu décris, ça extrait du sens, on dirait, de l'objet. Il est placé dans des endroits qui n'ont pas de bon sens, dans des kiosques qui sont mal. Mais je suis rempli de préjugés. Tu sais. Puis là, tu prends les mêmes objets, puis tu sors de là, puis tu les installes dans un autre type d'endroit, puis tu viens de les magnifier, tu viens de complètement changer. En tout cas,
c'est le phénomène de l'urine noire. Tu l'apprends.
Ben, oui, tout à fait. En fait, c'est un choix de marché que l'artiste ou l'artisan choisit de développer et s'identifie finalement à ce marché-là et là se positionne. Puis je pense vraiment que en fait le marché façonne aussi un peu l'artisan. C'est à deux sens. Hein.
Et on parle de marché, j'aimerais qu'on parle aussi de diffusion, parce que, on l'a abordé peut-être légèrement tout à l'heure, mais considérez-vous qu'à Québec ou au Québec, la diffusion en métier d'art, elle est convenable, il y en a assez, peut-être Amélie?
Ben moi, je trouve qu'il n'y en a pas assez. En fait, il y a à Québec le Centre Materia, qui est le seul centre de diffusion en métier d'art.
Au Canada, je pense, hein?
Oui, ben en fait, c'est
l'Est du Canada, je pense. Qui représente l'ensemble de toutes les disciplines de métiers d'art, c'est le seul au Canada.
Oui. Puis à Montréal, pour les métiers d'art, il n'y a absolument rien, ce qui est vraiment triste parce que, considérant la population des gens de Montréal, on s'attend à ce qu'il y ait un peu plus d'options pour les gens en métiers d'art. Récemment, moi et Véronique, on a développé dans notre centre de production de céramistes un petit centre de diffusion, justement pour essayer d'aider cette relève-là en céramique à avoir des possibilités de diffusion. Mais sinon, moi, je trouve ça vraiment triste qu'il n'y ait rien au Québec pour les métiers d'art. Et puis que si on essaie de s'intégrer dans les centres d'artistes en art visuel, ben, comme je disais plus tôt, c'est très difficile.
Donc, est-ce que ça force, je ne sais pas moi, à se monter un site Internet, à utiliser les réseaux sociaux ou des réseaux de diffusion parallèles?
Ben, on essaie de créer ses propres événements beaucoup. C'est sûr que il reste encore beaucoup de chemin à faire, mais tranquillement, je pense qu'on essaie de développer des nouvelles façons de présenter notre travail.
C'est peut-être pour ça que, quelque part, les métiers d'art sont parfois dévalués parce qu'on se ramasse à être dans des contextes qui nous appartiennent pas, des pièces dans une boutique de vêtements. Donc, souvent, nos pièces se ramassent n'importe où.
Ouais. Jean-Robert Drouillard, toi, tu es représenté par une galerie qui est plus axée sur les arts visuels, mais il n'y en a pas beaucoup quand même, là, des gens issus des métiers d'art qui sont représentés comme ça.
Oui, mais... C'est parce que mon truc, c'est que je fais de la sculpture, entre guillemets. Là. C'est certain que si je fabriquais des bracelets ou des couteaux, probablement que je serais pas parti dans les sphères d'activité. Ouais. Tu sais, je racontais tantôt pendant la pause qu'il y a 10 ans, en 2002, quand je voulais faire mes premières demandes de bourse au calque, je m'étais renseigné auprès des décideurs, puis on m'avait clairement expliqué que je pouvais pas faire de demande de bourse en métier d'art. Moi, dans ma tête, j'ai étudié en métier d'art. Je suis un artisan qui sculpte de la figuration en bois. Et on me disait, c'est impossible. Fait que là, je disais, donc, si je fais le personnage en céramique, je peux faire la demande de bourse de recherche ou de création en métier d'art. Mais comme c'est en bois, je suis obligé de le faire face à art visuel. T'sais. Mais bon, je t'entraîne un peu de me perdre parce que tu me parles de réseau, mais c'est que mes sculptures sont plus considérées comme dans les en métier d'art.
Donc, tu es vraiment plus dans la sphère des arts visuels, là, proprement parlé.
Ben, tu prends toute la logique. Là. Je travaille comme les artisans du passé. Je fabrique les sculptures comme les artisans du passé. Mais parce qu'il y a comme une facture différente, ils appartiennent plus. Je pourrais plus aller au salon des métiers d'art avec ça. Les gens ne voudraient pas.
Ben, c'est un peu ce que je voulais dire par le marché te façonne un peu aussi. C'est-à-dire qu'il te choisit. Il reconnaît que c'est là ta place.
Oui, mais toi aussi, tu peux... moi, c'est dans ce marché-là que je voulais aller.
Bien, on pourra continuer la discussion. Je cèderai la parole à Jean-Pierre Gay qui va nous faire part de sa deuxième sélection audio.
Deuxième sélection audio dans un autre domaine, un autre registre. On est dans quelqu'un qui était une grande animatrice de radio à Radio-Canada qui a pendant des années animé une émission en art audio. Il s'agit d'Hélène Prévost. Avec la venue d'Espace Musique, elle a perdu sa place à Radio-Canada parce que c'était trop un créneau. Donc, Hélène Prévost, elle fait beaucoup de ce qu'on appelle du field recording, c'est-à-dire qu'elle enregistre des bruits autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. La pièce dont il est question ici, c'est une pièce où elle a des enregistrements dans sa maison, dans sa cuisine, son salon et tout ça, par-dessus lesquels elle a fait des interventions avec des outils électroniques. Ça s'appelle, c'est tiré d'un démo qu'elle m'a envoyé, ça s'appelle « La voix dans le sac 2 ». c'est le radioton, hein, il y a des petits problèmes, des fois, de communication. Cette pièce-là, c'est une pièce de Sabika Sénès. C'est le retour d'Ingrid Betancourt à l'aéroport de Charles de Gaulle. Sabika travaille des extraits audio de paroles et elle les comprime. Ça, c'est le cas. Ingrid Betancourt est revenue. Elle a travaillé à partir d'un extrait sonore de quelques secondes qu'elle a refait. On entendra la prochaine fois Hélène Brune.
Voilà. Hey, il est présentement 14h18 et on vient de me donner le nouveau montant pour le radioton. On est rendu quand même à 21 417 $. Alors, félicitations! Une très bonne nouvelle. D'ailleurs, vous pouvez aller sur le site ckrl.qc.ca pour voir les lots qui sont à l'encan. On a une nouvelle amie, comme j'entendais dans une autre émission un peu plus tôt. Donc, PayPal, vous pourrez faire vos dons aussi directement sur Internet. On n'oublie pas que l'objectif est 40 000 $ qu'on doit atteindre donc d'ici ce soir. Alors, n'hésitez pas. Appelez. Vous pouvez aussi appeler au 418-640-2575. Donc, on poursuit notre table ronde sur les métiers d'art à et au Québec. Puis, pendant la pause, on discutait, en fait, bon, la diffusion en métier d'art. Il y a un pan qu'on n'a pas abordé parce qu'il n'est pas très, très connu, c'est les résidences. Mathieu, tu as développé un projet.
Oui, tout à fait. C'est un projet qui est dans la région de Portneuf qui s'intitule Habiter. Donc, on invite des artistes et artisans, créateurs à venir faire des projets en direct devant public. Donc, je trouve que dans le côté de métier d'art, il y a tout cet aspect-là, c'est que la création en direct intéresse un paquet de monde qui peut-être s'intéresserait pas à des expositions dans des galeries plus fermées. Donc, voir la création en direct, ça les intéresse. Puis, je pense que les artisans, en général, sont intéressés à montrer ça aussi. C'est facile pour eux de montrer leur création.
Puis, j'imagine aussi, ça amène les gens directement vers les œuvres.
Comme Mathieu, Amélie et moi, aux ateliers du 3-5e, on a fondé aussi un programme de résidence. Notre première artiste en résidence arrive justement demain, Jacinthe Baribeault. Elle sera là jusqu'au 18. Et comme Mathieu, qui a une sensibilité à sensibiliser le grand public, nous aussi, on est pas mal dans la même direction avec les ateliers du 3-5e. L'idée, c'est que les gens voient le lieu de production aussi. Et comme ça, on sensibilise les gens sur les métiers d'art en général. Il n'y a pas exclusivement le lieu de diffusion qui est la boutique. Il y a aussi l'idée de voir comment c'est fait pour qu'ils comprennent aussi la valeur d'un métier d'art.
Donc, le pont avec les arts visuels, ça fait encore plus, considérant que c'est des manières de faire aussi qui sont empruntées dans le monde des arts visuels.
Puis, les artistes de métier d'art aussi, parfois, ça les intéresse de changer de contexte, changer d'atelier, aller dans un environnement différent pour expérimenter concrètement autre chose. Puis, c'est peut-être une attitude qui est un peu différente en... par rapport aux artistes. Les artisans, ça les intéresse vraiment. Puis les collaborations aussi, ça les intéresse beaucoup. Je pense que c'est quelque chose qui est très riche dans le milieu.
D'ailleurs, on parle de collaboration. Je vois qu'il y a beaucoup de coopératives. Peut-être, Jean-Robert, tu pourrais nous en parler. Il y a 10 ans environ, vous avez fondé le Bloc 5. Est-ce que ça s'imposait un peu comme une nécessité de travailler en mode coopératif?
Bien, nous, si on n'avait pas fondé la coop, moi, je serais pas un sculpteur professionnel qui gagne sa vie, c'est sûr et certain. Donc, en commun, on a réussi à avoir des outils, puis des locaux. Puis, fait que le partage de ces biens-là fait que tu peux arriver à fabriquer des objets. Hein, ça coûte extrêmement cher fabriquer, que ce soit de la sculpture ou n'importe quel type d'objet.
C'est la même motivation qui nous a poussé à créer les ateliers du 3-5e parce que pour développer un atelier de céramique, on a besoin de fours céramiques qui coûtent excessivement cher, de tours, de galetteuses, de profileuses. Et puis, si chaque céramiste devait se procurer tous ces éléments-là soi-même, ce serait trop cher et puis ce serait pas rentable du tout. Donc, en mettant ça en commun, on donne la possibilité à plusieurs céramistes de tenter leur chance dans une carrière professionnelle en céramique.
Oui, puis j'imagine aussi que ça entraîne un système qui est beaucoup plus... qui permet plus l'entraide que la compétition, qui doit malgré tout être assez forte là, dans le milieu.
Compétition, c'est un drôle de mot.
OK.
Ouais, moi, c'est très rare que je parle de création comme d'une compétition. Si je rencontre un collègue, je pense que c'est mon collègue, c'est pas un compétiteur.
Vous êtes plus intéressé à voir ce que les autres font, à voir un peu leur manière de procéder.
D'ailleurs, justement, quand on dit c'est vraiment de la collaboration, je pense qu'en métier d'art, ben il y a beaucoup des écoles-ateliers en métier d'art qui ont développé ça, je pense, parce que les savoir-faire, finalement, on les apprend à l'école maintenant. Donc, on n'est pas gêné d'échanger. Puis, au contraire, on veut échanger à propos de nos connaissances. On veut en apprendre d'autres. On est super curieux. D'ailleurs, on parlait de résidences. De plus en plus, il y a des résidences, par exemple, en céramique. Je pense une résidence en Hollande qui accueille des joailliers. Donc, justement, les pratiques se mélangent. Puis, on a tout ça en commun. On est curieux d'apprendre, de développer, on veut finalement se distinguer puis échanger.
Oui, puis d'ailleurs, si on parle de la formation en métier d'art, bon, moi je donne des cours qu'on pourrait qualifier de cours d'histoire des métiers d'art. Auparavant, il y avait un cours d'histoire de la joaillerie, histoire de la céramique, etc. Maintenant, c'est un cours où on mélange toutes les formes d'expression, et ça, c'était extrêmement intéressant parce que les étudiants qui sont dans la classe voient, imaginons qu'on est, je crois, la Renaissance, donc ils voient ce qui se fait en joaillerie, en céramique, bon, en ébénisterie, en lutherie, et ainsi de suite. Et donc, ça permet justement cette idée que, ah, ben tiens, je pourrais tirer profit de certaines choses qui sont faites dans un autre domaine. Et même dans les cours techniques, on demande souvent aux étudiants de, je prends l'exemple de quelqu'un qui sera en ébénisterie, eh bien, tiens, tu pourrais aller voir une joaillière ou un joaillier pour pouvoir faire les mains ou les poignets du meuble, ainsi de suite. Et je pense que ça, c'est une tendance qui est naturelle chez les gens qui sont en métier d'art, cette idée du partage.
Cette idée aussi peut-être de la conscience que moi, j'ai un savoir-faire dans une discipline, donc je peux pas nécessairement être aussi fort ou aussi qualifié dans une autre.
Oui, je pense qu'on reconnaît beaucoup, justement, les qualités de chacun, puis on arrive à faire des échanges pour proposer vraiment soit des produits ou des œuvres qui ont... en fait, qui témoignent d'une certaine association ou un certain savoir-faire, mais d'un autre côté... je vais me contredire. D'un autre côté, moi, je trouve ça intéressant. Moi, l'idée d'aller dans un studio de céramique pour développer avec mes connaissances en joaillerie, donc d'aller m'amuser sans les savoirs de base là, de la céramique, je pense qu'on pourrait s'apporter mutuellement à faire ça aussi. Donc, plein de possibilités.
C'est l'heure de la pause, justement. Donc, la discussion s'est soufflée un peu. On en profite de la pause pour discuter de tout ça et on se retrouve dans une dizaine de minutes. Pendant la pause, avant la pause même, on parlait de la coopération entre artisans en métier d'art, disant qu'il y avait beaucoup de curiosité, d'entraide et tout ça. Mais on m'a dit que c'est pas tout à fait la même chose, hein, entre les métiers d'art et les arts visuels.
Mais je me demandais, tout à l'heure, on a soulevé la question du snobisme. Je me demandais si le fait, comme on a un savoir-faire, le fait que les artistes en arts visuels viennent rencontrer les artistes en métier d'art pour nous engager en tant que techniciens, entre guillemets, pour réaliser leur idée, parce qu'ils n'ont pas le savoir-faire. Donc, le fait qu'on devienne leur technicien, est-ce que ça contribue au fait que les arts visuels soient perçus de manière plus favorable que les métiers d'art, puisqu'on a que le pauvre rôle des techniciens, bien sûr, c'est du sarcasme.
Moi, je trouve ça tout à fait pertinent, ce que tu dis, Véronique. Moi, je pense, sans nécessairement que les artistes en art visuel considèrent que les gens en métier d'art soient plus bas, mais il reste que cette dynamique-là, peut-être, insuffle une idée particulière, à tout le monde.
Comme si le savoir-faire était moins important que toute la conceptualisation?
Je pense que c'est un gros problème dans la société. Souvent, quand les gens qui réalisent des choses pourraient pas gérer les choses. L'administration puis la création, ça pourrait pas aller ensemble. Puis ça, c'est un gros problème, je pense, qui est dans plusieurs sphères, je pense.
Mais moi, je crois pas à ce qu'on est en train de dire, entre guillemets, c'est que ça fait 10 ans que je suis à l'intérieur des murs d'une coopérative qui fabrique des objets pour les autres. C'est de l'art public. Donc, c'est... nos capacités de soudeur, meuleur, puis je pense même que ça a participé, nous, à nous faire valoir, puis à pénétrer les sphères d'activité commerciales des arts visuels, puis de gagner le respect de plusieurs. Fait que des fois, c'est un beau partage. Des fois, c'est intéressant. Puis moi, je suis quelqu'un qui, ça fait 30 ans qu'il a une pratique artistique, puis qui conçoit des objets qu'il n'est pas en mesure de réaliser lui-même. Parfois, il va venir te voir avec respect, puis avec... il est content de te rencontrer, tu sais.
Il y a une humilité, finalement, de certains artistes en art visuel.
Oui, on entend des histoires d'horreur, ça, c'est sûr. C'est sûr.
Tu donnais un exemple tantôt d'un artiste qui respecte beaucoup, qui donne toujours le nom de ses techniciens, puis c'est...
Mais ça, c'est au niveau international. Il y a un artiste qui s'appelle Anish Kapoor. C'est un des sculpteurs les plus connus sur Terre. Puis quand on ouvre les revues puis qu'on lit des entrevues avec lui, on se rend compte qu'il nomme toujours son chef technicien puis l'ingénieur qui travaille sur ses projets. Fait que c'est mis à l'avant que lui, il n'est pas en mesure de faire ça. Mais là, on est devant des œuvres archi-gigantesques. Là, sont phénoménales.
Mais dans le fond, c'est un phénomène qui est très courant. Quand on prend les artistes en art visuel les plus connus, on pense à Jeff Koons, par exemple. Damien Hirst, ils ont des dizaines.
Ils ont des usines.
C'est des usines.
Ben, on disait justement pendant la pause tout à l'heure que Jeff Koons, c'est lui qui a le crédit d'avoir fait la plus grosse sculpture en porcelaine au monde, mais il n'y a jamais touché. Il l'a seulement conceptualisé. C'est la fameuse sculpture de Michael Jackson avec son singe. Et puis, ben, il n'a jamais touché à la porcelaine qui servait cette sculpture-là.
Il va vendre cette œuvre-là des millions de dollars. Mais si ça avait été justement quelqu'un en céramique qui aurait fait l'œuvre de Michael Jackson en porcelaine, il aurait vendu ça quelques dizaines de milliers de dollars. Et on voit que c'est tout à fait arbitraire, cette idée-là.
Mais moi, je pense que ça tend à changer. De plus en plus, on voit ça plus comme des associations que comme de la sous-traitance. Parce que l'artiste reconnaît effectivement qu'il n'a pas les capacités techniques pour arriver à ses fins, puis fait appel à un artisan, et l'artisan va lui montrer des façons de faire, puis il va l'amener peut-être ailleurs. Donc, il va l'amener à changer même sa conception qui était à l'origine. Fait que ça va vraiment loin. D'ailleurs, quand je parle d'association, je pense il y a une artiste textile, c'est Sheila Kennedy. En fait, c'est pas une artiste textile, pardon, c'est une architecte qui fait affaire avec des artistes textiles pour développer des panneaux solaires et aussi mécanisés, en fait, qui réagissent. Donc, on va faire des maisons en textile bientôt. Donc, c'est vraiment des associations entre architectes, designers, c'est des recherches. Puis, on reconnaît effectivement toutes ces personnes là, qui travaillent au bien fondé de ces objets-là.
Est-ce que ça viendrait pas d'une forme de surspécialisation, tout ça? Chaque personne devient vraiment spécialisée dans une discipline plus que dans une autre, puis doit faire appel.
Ben, en fait, moi, je pense que les gens qui collaborent comme ça, c'est qu'ils ont un désir de faire avancer leur discipline, puis de l'amener au-delà de ce qu'elle est. Et puis, seuls, ils peuvent pas le faire. Donc, oui, sur spécialisation, mais aussi, c'est de mettre toutes ces connaissances-là ensemble pour arriver à éclater encore plus les frontières, puis aller au-delà de ce qui se fait déjà.
J'allais dire, c'est pas nouveau non plus dans l'histoire de l'humanité. Le Danny pourrait nous relater des Rodin, il y avait une usine lui aussi, puis
exactement.
Il devait avoir un maître mouleur.
Pourquoi on s'appelle pas simplement des créateurs?
J'aime beaucoup le terme.
Et des créateuses.
Ben moi, j'ai réglé le problème en sortant de l'école. Je suis un artisan en art visuel.
Voilà.
Effectivement, le fait de maîtriser une technique ne fait pas de nous exclusivement un artisan. On fait de la sculpture, nous aussi. Puis c'est pas parce que je fais plusieurs types de productions que je suis moins une artiste quand je fais de la sculpture. C'est pas à cause que je fais des tasses aussi que quand je fais une sculpture, elle est moins bonne.
Voilà. Et comme je disais tout à l'heure, c'est que avant la Renaissance, tout le monde était appelé artisan, qu'il soit peintre, etc. Eh bien, aujourd'hui, peut-être qu'on devrait dire tout le monde est créateur.
Oui, puis j'irais renchérir dans le sens où de plus en plus on va faire même appel à des designers avec toutes les nouvelles technologies là, qu'on voit poindre en fait dans les métiers d'art. On pense aux prototypeuses 3D, les imprimantes 3D qui bientôt seront dans nos salons. Donc on va faire venir l'objet puis on va l'imprimer chez nous. Pourquoi pas? Et dans le domaine des métiers d'art, il y a toute la réappropriation de ces objets-là qui est intéressante.
Donc si je comprends bien le terme artisan, est désuet aujourd'hui?
Moi, je pense que oui.
Moi, je pense que non. Ben, moi, je... c'est parce que moi, je l'aime, ce terme-là. Tu sais,
qu'est-ce que t'aimes précisément dans le terme? C'est sa, ben, sa
c'est
charge?
C'est peut-être une histoire de garçon puis de petit garçon. Là, tu sais, puis je regarde Mathieu, c'est que l'artisan, lui, on a le respect justement là, de la poussière en suspens dans l'atelier. Là, tu sais, il faut apprendre à aiguiser son rabot. Tu sais, il faut être capable de reconnaître sa planche. Tu sais, l'artisan, dans ce sens-là, a un rapport physique. Quotidien avec
oui, mais
son
Jean-Robert,
métier.
Tu serais rentré dans l'atelier de Riopel, tu aurais vu que c'est physique, il y en avait de la peinture partout,
oh oui,
c'est spatule, puis c'est gugus.
L'artisan, il y a quelque chose du garagiste aussi, je pense. Ouais.
Du garagiste, ah oui, explique-nous donc ça, je suis curieuse. Tant que c'est pas les mêmes plaies de graisse.
Je pense qu'il y a des garagistes qui sont des créateurs aussi. Puis, tu sais, c'est un peu tout ça, l'amour de la chose puis de le faire.
C'est aussi l'amour des outils, être un artisan. On aime nos
ça,
outils.
C'est vrai, beaucoup,
on les regarde, on les trouve beaux, on s'en occupe. Ça, c'est important.
On est vraiment matérialiste des outils. Ouais, fétichiste des outils, j'irais même.
Ah oui, fait que là, vous vous promenez dans les magasins où il y a des outils constamment à l'affût des nouvelles choses que vous pouvez trouver.
En fait, les magasins sont pas assez forts pour la ligue. Fait que là, on regarde des revues, on commande des trucs par Internet parce que ce qui se trouve dans les Rona, ça va faire grand-chose.
J'en profiterai peut-être pour faire une petite pause et encore une fois céder la parole à Jean-Pierre Gay pour la sélection audio.
Oui, parce qu'en art audio, on n'a pas d'artisan. La matière première, c'est virtuelle, celle dont je vais vous parler maintenant. Tantôt, j'ai parlé de Sabika Senaise. Sabika Senaise, elle travaille à partir d'une matière première qui sont des extraits sonores de personnes qui se sont retrouvées après de longues séparations. Je donnais l'exemple d'Ingrid Betancourt tout à l'heure. Il y a aussi des soldats qui reviennent de guerre. Il y a sur ce disque-là, Charles Maurer, il y a toutes sortes d'éléments comme ça. Mais là, on va vraiment entendre, cependant, la pièce dont j'avais parlé tout à l'heure, qui se passe dans la cuisine de Mme Prévost.
Et voilà, c'était la dernière suggestion audio de Jean-Pierre Gay. Alors, je le remercie chaleureusement. D'ailleurs, si vous voulez écouter l'émission de Jean-Pierre, c'est le dimanche à compter de 22h, minuit. Entre les deux, c'est à compter de 23h. C'est La Croche-Oreille qui est diffusée ici sur les ondes de CKRL. Il nous reste quelques instants pour cette table ronde. Et avant la pause audio, on discutait d'amour des outils. Et je pense que Mathieu s'est lancé sur une envolée.
Tout à fait. Ben, je pense qu'on donnait des exemples. Je pense qu'un peintre aussi peut avoir cet amour de l'outil-là, puis là, on pourrait élargir le débat, puis peut-être que, dans le fond, la plupart des artistes qui travaillent avec des techniques pourraient être embarqués dans la gang des artisans, puis justement, on donne des exemples.
Ben, c'est ça. Ben, moi, je disais à Mathieu que je travaille pour un artiste à l'occasion, un peintre, et puis faut surtout pas que je touche à ses pinceaux. Puis là, également, les marques de peinture, il est vraiment maniaque de tout ça. Alors, c'est la même chose quand je rentre dans un atelier de sculpteur ou de céramiste ou d'ébéniste avec les rabots et tout. C'est exactement la même chose.
Puis un peintre qui travaillerait à l'encaustique, mais là, on parle d'une technique qui est tout à fait artisanal. C'est ça,
finalement, on est en train de redéfinir des nouvelles cloisons, puis on va mettre les gens qui font de l'estampe, de la peinture, sont maintenant dans notre équipe. Oui.
Et peut-être, finalement, que ça va être, on boucle la boucle, c'est que tout le monde ait des artisans, qu'ils soient peintres, qu'ils soient sculpteurs, etc. Bon, ben, comme c'était le cas à l'époque. D'ailleurs, je disais tout à l'heure, comment se fait-il que les gens qui font de l'estampe, n'aient pas été initialement placés dans la catégorie artisan. Bon,
en voyez, comparaison à un artiste textile qui fait des tapisseries, ben qu'on a eu comme exemple.
Présentement, je suis en train de concevoir des sérigraphies, qui est complètement en dehors de mon travail de sculpteur sur bois, mais je ne suis pas en mesure. Tu sais, il y a un retournement. Moi, je ne suis pas en mesure de faire de la sérigraphie. Fait que la personne qui est sérigraphe puis qui a appris son métier de sérigraphe sur des skateboards puis à faire du street art puis des trucs comme ça, c'est un artisan. Il est autodidacte, mais c'est le rapport à... Puis là, c'est la sérigraphie, tu sais. Son rapport à l'atelier, son rapport à la matière couleur, son rapport aux outils, c'est le même.
Mathieu, tu avais l'air de vouloir réagir.
Non, mais c'était vraiment ça, comme tu dis, c'est un retournement. C'est l'artisan qui fait appel à l'artiste plutôt que le contraire qu'on disait tantôt.
Oui.
Puis ça amène aussi aujourd'hui peut-être une distanciation. Là, je pense souvent on a une conception romantique, soit de l'artisan qui travaille tout seul dans son atelier, ou encore l'artiste qui s'exprime sur le monde avec tous les tourments, qui doit nécessairement tout faire lui-même parce que l'œuvre est le produit de son expression. Là, on est vraiment sorti de ces conceptions-là.
Ben, ça date vraiment du 19e siècle, cette idée-là, parce qu'auparavant, en fait, l'histoire de l'art en général est un phénomène d'atelier. On a juste à retourner... n'importe quel artiste qu'on a en tête, c'est ça, il n'était pas seul.
Peut-être dernière question en terminant, parce qu'il nous reste environ 6 minutes avant la fin. Comment percevez-vous, c'est peut-être une question difficile à répondre, mais comment percevez-vous l'avenir des métiers d'art au Québec, à Québec ou de manière générale? Qu'est-ce qui s'en vient d'après vous là, dans un futur proche ou lointain?
Bien. Moi, je suis positive parce que je disais que nos créateurs, en fait, on est très, très, très originaux puis on peut se démarquer. Par contre, du côté des équipements, on parlait de nouvelles technologies, ouais, etc., on a beaucoup à faire de ce côté-là. Donc, auprès des subventionneurs, on a toutes les infrastructures pour les accueillir, ces équipements. Là, je parlais d'école-atelier, là, on est vraiment au bon endroit. Mais on a besoin là d'une mise à jour si on veut vraiment se démarquer davantage.
Ben,
allez, Dani.
Moi, je suis très, très enthousiaste pour ce qui est de l'avenir. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre avec Céline Dubard, qui est la directrice de l'école d'ébénisterie ici à Québec. Et puis, un livre sur l'histoire du meuble au Québec. Et on met un accent très, très important sur le meuble contemporain, le meuble actuel, ce qui est à peu près pas fait dans l'histoire du meuble, parce que souvent on associe d'ailleurs au meuble québécois la fameuse armoire néo-Louis XIII et tout ça, et les meubles, plusieurs meubles contemporains dont on va faire mention, c'est ce qui est considéré comme étant des sculptures, des meubles du meuble sculpture. Et je pense que si on veut être... Non, mon enthousiasme vient justement de ce fait qu'il n'y aura plus de clivage entre art visuel et métier d'art et que tout le monde va fusionner pour un travail de création, finalement.
Et je pense que les entreprises locales aussi sont de plus en plus sensibles à engager des artisans locaux pour... se procurer des produits. Donc, ils ont plus le réflexe de commander à l'extérieur, mais de voir d'abord ici localement, est-ce qu'il y a un artisan qui peut répondre à mon besoin?
Puis, je pourrais aussi rajouter que depuis l'ouverture des ateliers du 3/5e, on a reçu un accueil excessivement chaleureux de la part des gens de Québec. Donc, je pense qu'on répond à un besoin qui était là. Et pour le moment, là, je pense qu'on on peut entrevoir l'avenir avec un œil positif pour les métiers d'art.
Jean-Robert, toi, qu'est-ce que t'en penses?
Ben moi aussi. Moi, pour l'anecdote, mon épouse fait partie de l'atelier qu'Amélie et Véronique ont fondé, puis elle est céramiste elle aussi, puis là je vois ça aussi à travers ses yeux, à travers les yeux des élèves à qui j'enseigne à Maison des métiers d'art. Il y a vraiment une mouvance, puis un respect de plus en plus grand peut-être pour les techniques, les savoir-faire, la qualité des objets qui sont fabriqués ici.
Mathieu, je te laisse le mot de la fin.
Oh wow! Moi, je crois beaucoup à l'aspect social, à la diffusion, au contact qu'on a avec les gens, puis leur expliquer c'est quoi qu'on fait, puis j'en profiterai pour dire un gros merci, parce que je pense qu'avec des tables rondes comme ça, on a parlé beaucoup de collaboration, mais je pense que là, ça c'est une belle qu'on fait du côté plus, peut-être pas technique, mais du côté de la discussion, puis de qu'est-ce qui se passe, puis où est-ce qu'on s'en va.
Ben, merci Julie.
Ben moi je vous remercie tous infiniment. Merci. Danny Quine. Ouf, je vais sortir ma petite liste de noms pour être sûre de ne pas oublier personne. Danny Quine, Amélie Proulx, Véronique Martel, Jean-Robert Brouillard, Catherine Chédé, Mathieu Fecteau. Merci beaucoup.
Merci.
Avant de conclure l'émission, je voulais juste vous dire qu'il y a quand même des œuvres qui sont à vendre à l'encan. Donc si vous voulez aller sur le site internet pour voir des images, venez ici directement à CKRL, donc des œuvres de mon Dieu, j'oublie les noms. C'est pas drôle. Voyons, c'est quoi son nom? C'est Joël Sim, Cynthia Coulombe, Bégin. Et puis, Véronique, Rachel Boisvert. Merci, voilà. Je sais pas, que l'œuvre, elle est un petit peu trop loin pour que je le voie. Donc, vous pouvez toujours aller sur le site www.ckrl.qc.ca. Vous pouvez regarder également les autres lots qui sont à l'encan, faire des dons par le biais de PayPal. Je répète que notre objectif est quand même de 40 000 $ et pour les derniers chiffres, on est rendu à 21 417. Donc, si mon nom est Julie Gagné, ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Je remercie aussi également Léa Barba qui était à la réalisation et Robert Boisclair à la mise en ondes.